Vous écoutez Graphite.
94.9 www.graphite.net. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Et là, le but, c'est de vous parler du mois de la BD, puisque le mois de la BD, c'est du 1er au 31 octobre et c'est partout en France. Et il y a notamment un événement organisé, co-organisé par la médiathèque départementale de l'Oise, la MDO. Et donc là, il y a un événement qui se déroule ce soir aux bibliothèques de Compiègne, notamment, je crois que c'est en centre-ville, si je dis pas de bêtises, c'est la salle du chapitre. On aura le temps d'en parler le temps de cette interview, puisqu'on reçoit avec nous Mathilde Domecq, qui est autrice également. Vous êtes dessinatrice de bande dessinée. Bonjour.
Bonjour.
On a avec vous Pascal Herriot. Alors, plusieurs casquettes. Vous êtes là pour la MDO, mais également pour On a marché sur la bulle, qui est une association amiennoise, si je ne dis pas de bêtises, qui organise un événement amiens.
Oui, les rendez-vous de la bande dessinée chaque année en juin.
Et également, vous êtes également l'éditeur de l'autrice.
Alors, je suis éditeur de Mathilde sur un titre dans sa très large bibliographie.
On parlera un peu justement quel est le rôle de l'éditeur. On pourra un peu parler de vos rôles respectifs. Et puis, il y a Cécile Griot, de la médiathèque départementale de l'Oise. Quel est votre rôle du coup à la médiathèque et quel est le rôle de la médiathèque départementale de l'Oise?
Alors, la médiathèque départementale de l'Oise, qui n'est pas tellement connue du grand public, en fait, c'est un peu la bibliothèque des bibliothèques. On est là, on est un service départemental pour faire rayonner la lecture publique en fait dans le département. Donc on travaille beaucoup avec les bibliothèques, avec les salariés, les bénévoles. On leur propose des collections, mais on leur propose aussi beaucoup de temps forts, dont le mois de la BD, donc au mois d'octobre, où il y a sur le territoire des ateliers à destination des scolaires, des ateliers à destination des publics éloignés de la lecture, mais également des rencontres tout public. Donc aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Mathilde Domecq. Et le 18 octobre, on aura la joie d'accueillir Étienne Lecroix au Vénilantel, le 18, voilà, à 15h.
Je crois également que vous prêtez des expositions aux médiathèques et aux bibliothèques, c'est ça?
On prête beaucoup de matériel d'animation. Alors ça va de l'exposition, des tapis narratifs, des kamishibai. On prête vraiment beaucoup de choses pour que les bibliothèques puissent animer et faire vivre leur lieu en fait, de culture.
Là, le grand temps fort de ce mois-ci, c'est le mois de la BD. Mais quels sont les autres temps forts de la BD dans l'année?
Ah, il y en a plein. Alors du coup, au mois de novembre, on va enchaîner sur le festival Contes d'automne. Il y aura 36 dates avec 36 dates de contes un petit peu partout sur le département. Et puis cette année, en 2025, c'est l'année de la culture dans l'Oise. Donc du coup, je l'annonce, voilà, le samedi 6 décembre, il y aura une grande, grande fête à Saint-Maximin, à la Maison de la Pierre, dans les Carrières, donc un lieu assez improbable, où il y aura une journée gratuite, ouverte au public, avec plein d'ateliers, des ateliers graphes, de la musique lyrique, du hip-hop, et un spectacle incroyable avec un artiste international, l'un des seuls ombromanes au monde, Philippe Beau, qu'on va avoir la chance d'accueillir. Donc toutes les informations seront sur les réseaux sociaux du département de l'Oise et sur le site de la médiathèque départementale, je le dis, mdo.fr. Voilà, j'en profite.
C'est l'exclusivité de l'émission, c'est ça?
C'est ça.
Merci. Mathilde Domecq, vous êtes donc illustratrice également, vous faites les scénarios, il me semble, de certaines BD. Vous avez commencé dans les magazines jeunesse. C'est quoi la différence entre les magazines jeunesse et les albums? Si on peut poser cette question.
Oui, elle est très intéressante. Moi, j'ai commencé effectivement dans la presse à peu près les 4 premières années où j'ai travaillé dans la bande dessinée, ce qui m'a permis de m'essayer à faire de la bande dessinée tout en sachant que ça n'allait pas être un livre qui peut rester toute une vie dans une bibliothèque. Donc j'ai trouvé ça super. Donc les premières traces de mon travail, finalement, il y en a assez peu parce que les périodiques, on ne les garde pas.
Ah oui, donc c'est un peu comme les gens qui font des petits EP, des petits albums de 3 ou 4 titres, un peu pour se mettre une mise en bouche, et ensuite on sort l'album qui restera figé, c'est ça?
Disons que c'est plus simple. Moi j'ai trouvé ça très agréable parce que j'ai pu justement expérimenter, devenir professionnelle, et pour autant je dois pas assumer peut-être des boulots où j'étais pas encore complètement... Enfin bon, mes premiers livres, je les assume encore, mais c'était pas non plus... Tout n'était pas complètement, je sais pas comment dire...
Perfectible,
assumé. Non mais, oui, parce qu'on progresse tout le temps, mais c'est vrai que l'objet livre... Il reste, vraiment. Alors que le magazine, non.
Le magazine, c'est quelque chose, c'est des dessins qui sont plus drivés, c'est une commande. Comment ça se déroule un petit peu, la fabrication derrière?
Ça dépend et ça dépendait des magazines. Moi, la presse jeunesse va pas très très bien. Il y a très peu de titres qui ont perduré. Moi, j'ai commencé dans les années 2005, comme ça. Il y avait beaucoup plus de titres. Et on cherchait à l'époque encore un travail d'auteur et d'autrice. Il n'y avait pas que ça, il y avait de la commande aussi. Hein. J'ai fait tout. En fait, moi, je faisais tout ce qu'on me proposait. Vraiment le marronnier en faisant des labyrinthes avec des feuilles d'automne à l'automne, des plages à l'été. Enfin, tout ça, je l'ai fait aussi.
Donc là, c'est plus le côté illustratrice, c'est ça ?
Oui, pas forcément. Ouais. On peut aussi mettre des histoires dedans. Enfin, oui, mais il y a des marronniers dans la presse qui reviennent.
Dans la presse, oui. La rentrée scolaire, saison, l'hiver, les feuilles qui tombent.
Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça très stimulant. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attention aussi à ne pas faire que ça. Et je sais que j'ai vraiment mis une intention dans le fait de développer mon travail d'autrice, parce qu'après, sinon, on peut faire de la commande toute sa vie. Hein.
Comment on trouve son style ? Comment on trouve son dessin ? Vous étiez bercé par quoi ? Parce que c'est loin du traditionnel BD belge. Vous travaillez à l'écrit, au stylo, enfin au feutre, ou c'est en numérique ?
Non, moi, je travaille en analogique. Quoi. Je travaille vraiment sur du papier, avec du crayon, de l'encre. Parce que j'ai besoin de ce rapport physique au dessin, parce que ça me fait du bien. Et que j'ai fait quelques albums juste sur tablette pour essayer, et que je me suis rendu compte que quand je faisais ça, j'étais simplement fatiguée à la fin de ma journée de travail, alors que quand je finis une journée de travail où j'ai dessiné sur papier, j'ai aussi un sentiment de bien-être que je ne retrouve pas quand je fais que du numérique. Donc je n'ai pas fait ça beaucoup, j'ai essayé. Et puis je travaille surtout au crayon et à l'encre. Alors, ou à l'aquarelle.
Comment on fait pour avoir son style ? Parce que quand j'ai dit que c'était loin de la BD traditionnelle, vous avez levé les yeux en l'air un petit peu ?
Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je me ressens vraiment comme l'héritière de la bande dessinée franco-belge. Okay. C'est-à-dire que c'est ce que je lisais quand j'étais enfant. Astérix, Lucky Luke, Tintin, Spirou, Blake et Mortimer aussi. Enfin, tous ces trucs-là qui étaient dans la bibliothèque de mes parents. Et aussi, j'ai été abreuvée de manga, parce qu'il y avait Dragon Ball, tout ce qui passait à la télé aussi, comme importation là, au Club Dorothée, j'ai vu tout ça. Et je pense que mon travail, c'est un peu, comme une assimilation de tout ça. Mais j'ai jamais recherché mon style. J'ai pas fabriqué un style. Je me rappelle quand j'étais étudiante en école d'art, on se posait tous un peu les mêmes questions. On avait tous et toutes envie de devenir des auteurs et des autrices. Et moi, c'était pas une question que je me posais. En fait, j'ai vraiment l'impression de dessiner tel que je suis. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question.
Si, c'est-à-dire que c'est naturel, il n'y a pas de recherche particulière.
Ce n'est pas fabriqué, en tout cas. Et après, il y a toutes mes influences que je reconnais ou que je ne reconnais pas.
Alors, c'est vrai que vous êtes né en 82, du coup, la période de Walt Disney, Club Dorothée plutôt, vous êtes en plein dedans, hein, vraiment. Ouais. C'était quoi les dessins animés que vous regardiez quand vous étiez plus jeune ?
Tous ces trucs-là qui passaient à la télé, quoi.
Les choses plutôt un peu violentes, de garçons, et les trucs Jeanne et Serge ou pas du tout ?
Si aussi, mais tous les trucs qu'à l'époque, des adultes ont importé en sachant pas du tout ce qu'ils importaient, les Nicky Larson et compagnie, c'était pas du tout adapté à un public d'enfants, en fait. Et donc, oui, j'ai vu tout ça, comme tous les enfants de ma génération, je pense.
Génération traumatisée, en fait.
Ça va, hein. Ça va,
on s'en sort bien. Comment vous avez commencé, la BD ? Donc, vous avez dit que vous avez fait une école d'art, en fait, en illustration. Mais c'est quoi le cheminement pour arriver à publier ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est quoi là ? Parce qu'en plus, vous êtes parti de Strasbourg, vous êtes né à Marseille, aujourd'hui vous êtes à Berlin. Il faut voyager un peu comme dans d'autres secteurs, j'essaie de prendre l'analogie de la musique, mais un peu comme dans la musique.
Il n'y a pas de règle, hein, vraiment. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui font de la bande dessinée, qui n'ont pas du tout fait d'école. Moi, j'ai eu la chance de me rendre compte que je voulais faire ça très très jeune. Enfin, moi, je veux faire ça depuis que j'ai 7 ans, en fait. Donc, j'ai fait que ça. Heureusement que ça a fini par marcher.
Pour les parents.
Sinon, au bout d'un moment, je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Mais... je pense vraiment qu'il n'y a pas de nécessité, ni de faire une école d'art, ni de voyager. Enfin, après, c'est Rilke, quand il fait ses lettres à un jeune poète, à un moment donné, qui donne un conseil et qui dit « Si tu peux vivre sans écrire, n'écris pas ». Donc je pense qu'il y a ça un peu. Si ce n'est pas une nécessité absolue de faire de la BD, tu ne vas pas en faire. En fait. C'est tellement chronophage, c'est tellement un peu dingue comme métier que je pense que finalement, on le fait parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin,
ouais. On va parler de cette BD, Lina et le secret de la passerelle. L'histoire, c'est une petite fille qui a ses deux parents dans deux temporalités différentes, une dans les années 1910 et une autre dans les années modernes. Comment c'est venu cette histoire et si vous pouvez nous la pitcher pour les auditeurs ?
Oui, absolument. C'est une idée géniale du scénariste qui s'appelle Julien Frey, qui a créé comme ça une allégorie de la garde alternée. Et donc la petite fille, à chaque fois qu'elle change de domicile, elle change de siècle. Et moi, je trouve très juste, parce que je pense que les enfants qui changent de domicile changent vraiment tellement d'univers que ça pourrait se rapprocher d'un siècle d'écart, des fois. Et l'histoire est Il y a tout ce que j'aime en fait dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un contexte historique très fort, parce qu'il y a soit Paris de nos jours, soit Paris en 1910, donc moi je me suis documentée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je dessine, même si j'ai pas un dessin absolument réaliste, en réalité il y a quand même beaucoup beaucoup de documentation, enfin, le métro c'est vraiment le métro, les voitures c'est des vraies voitures, enfin, ça c'est des recherches que j'aime faire, que j'ai toujours aimé faire, et pareil en 1910 du coup. Et en plus il y a le contexte historique très fort de Paris en 1910 qui a été inondé, parce qu'il y a eu une crue de la Seine. Et tout ça participe au récit qui est très, très bien écrit, dans lequel, en fait, Lina, forcément, comme elle voyage entre les deux périodes, elle sait. Et son père, qui, lui, vit en 1910, ne veut rien savoir. Et elle va devoir l'aider malgré lui, parce qu'il est en train d'ouvrir sa librairie et qu'elle va se retrouver inondée si elle ne fait rien. Enfin bon, c'est super. Et il y a une alliance avec la grand-mère. Il y a tout ce que j'adore dessiner. Donc, le contexte historique très fort, beaucoup d'amour entre les personnages, des liens... Oui, des liens d'amour, d'amitié qui font que ben, l'histoire existe parce qu'en fait, les personnages, ils interagissent de façon très puissante. Et oui, puis c'est malin. Enfin, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé dessiner.
C'est le scénariste qui donne la voix au dessin ou c'est un mélange des deux? Comment ça se déroule? Vous avez le script qui arrive sur votre ordinateur, vous devez le lire et ensuite, vous imaginez, vous faites des croquis, c'est quoi le...
Oui, c'est ça, en fait. Ce qui était très intéressant avec Julien, c'est qu'il vient de l'audiovisuel, donc plutôt du cinéma et de la télévision. Donc, il me donnait vraiment des scénarios. Il avait écrit scène 1, intérieur jour, chez la maman de Lina. Et en fait, c'est moi qui décidais comment je découpais chaque scène, en combien de planches, qu'est-ce que je mettais dans chaque planche, comment je découpais tout ce qui est très intéressant en bande dessinée, c'est-à-dire faire le choix des cadrages, faire le choix de la taille de la case. Tout ça n'était pas dans le scénario. Donc j'ai quand même une part d'écriture qui, moi, m'a satisfaite, parce que j'aime pas être juste exécutante en réalité. Voilà, donc c'était ça. J'ai reçu vraiment un scénario, comme si c'était pour un film.
Pascal, vous êtes du coup l'éditeur. C'est quoi le métier d'éditeur? Vous êtes l'éditeur pour cette BD-là, l'édition de La Gouttière. C'est également l'édition où il y a les Lulus, là, la guerre des Lulus. Non, c'est pas ça.
Alors la guerre des Lulus, non.
Je le pensais.
On aurait sûrement les meilleurs fonds de roulement en trésorerie si la guerre des Lulus était chez nous.
Mais Régis Sautière est pas.
Alors Régis Sautière fait une série chez nous qui s'appelle Le Plan de la Rivière Sauvage. Okay. Et puis dans la partie plus associative, il travaille dans les mêmes locaux que nous, et puis il est amiénois aussi, et on est en connivence permanente en effet. Le métier d'éditeur, en tout cas la façon dont on le perçoit nous, qui avons décidé de n'être entre guillemets que éditeur jeunesse, c'est de recevoir des projets, de savoir si oui ou non ces projets nous paraissent indispensables, un peu comme ce que disait Mathilde sur s'il n'y a pas un impératif à les faire, il ne faut pas les faire. Donc on essaie de partir de cette idée que ces livres nous paraissent nécessaires à nos yeux, et puis ensuite accompagner les artistes qui l'ont créé au mieux pour les aider économiquement déjà à traverser la période de création, et puis ça c'est la fonction de production exécutive, et puis après les accompagner parce qu'on a la prétention de penser qu'on a quelques compétences sur la bande dessinée jeunesse, d'essayer de les accompagner sur des questions de narration, de fluidité du récit, et puis même en amont du côté du scénario, là, ce qui a été le cas là, avec Julien Frey, poser des questions, est-ce que vraiment le personnage dit ça, est-ce que tu es sûr d'eux, et puis d'essayer d'arriver à quelque chose qui soit aussi optimal que possible. En fait, partir d'un projet et se dire, dans le meilleur des cas, il faudrait que ça soit encore plus extravagant et encore plus enthousiasmant quand on sera au livre à l'arrivée. Et ça a été clairement le cas pour celui-là.
Donc vous êtes là avant, pendant et après?
Et puis le après, effectivement, consiste à aller convaincre des commerciaux d'aller dans les librairies, d'être convaincant avec les libraires, convaincre les libraires de mettre ce livre en avant, convaincre des acheteurs à travers les réseaux sociaux, convaincre également sur des salons lorsqu'on sort, et convaincre par la cohérence d'un catalogue où les gens nous font confiance et vont d'une bande dessinée à l'autre, puisqu'on a des bandes dessinées muettes pour les tout-petits, des bandes dessinées comme Anouki, par exemple, qui est un petit peu la série phare de la bande dessinée muette, ou des séries pour les primo-lecteurs, comme Sous les arbres de Dave, et puis après sur des séries comme Enola, comme Les Crocs, et puis ici comme avec cet album-là. Les convaincre qu'il y a un intérêt à suivre La Gouttière si on s'intéresse à la bande dessinée jeunesse.
C'est quoi un petit peu la recette pour vendre des BD, à part avoir une bonne BD? Du coup, est-ce qu'il faut encore des PLV? Est-ce que les rencontres sont plus importantes pour vendre du livre? C'est quoi exactement aujourd'hui?
Je crois que c'est un mélange de compétences, de motivation et de chance aussi, parce que il y a toute une partie, il y a des fois des rencontres entre des œuvres et des publics, et des fois des rencontres qui ne se font pas. Si je sors de La Gouttière, je connais des chefs-d'œuvre qui n'ont presque pas de lecteurs, et c'est assez frustrant. Et puis les jours où je suis de plus mauvaise humeur, je connais des bandes dessinées qui se vendent très bien, donc je trouve qu'elles sont pas plus extraordinaires que ça. S'il y avait un secret, je crois que ça serait plus simple, ou alors ça ne rimerait à rien.
Ça démystifierait le métier aussi.
Non, mais ce n'est pas une question de mystifier ou pas. Il y a quelque chose qui nous échappe. À partir du moment où on a fini le livre, on a donné le meilleur, le scénario, dessin, fabrication, entourage, marketing, on donne le meilleur. Et puis après, il y a une rencontre ou pas une rencontre. Et cette rencontre-là, elle est tellement liée à des impondérables, à des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'il faut l'accepter.
C'est vrai que les auditeurs et les lecteurs n'imaginent pas trop la chaîne du livre. Elle est quand même assez monstrueuse hein, pour que le bouquin arrive jusque dans vos mains.
Oui,
il y a beaucoup d'intermédiaires.
Et même des intermédiaires internes dans la nomenclature des métiers de l'édition. À l'intérieur des métiers de l'édition, il y a 37 métiers qui sont identifiés. Voilà, la gouttière, on est 4,2. Le 2, c'est moi. Et donc, il faut compiler plein de fonctions sur lesquelles des fois on est très pertinent, des fois un petit peu moins.
Du coup, Mathilde, vous êtes invitée au Festival d'Amiens, aux rencontres de la BD d'Amiens. Vous y allez régulièrement ?
Oui, ça fait quelques années que j'y vais, oui.
Alors, tous les auteurs me disent que c'est le festival le plus accueillant, le meilleur de France. C'est vrai ou c'est une légende ?
Alors, moi, je vais être complètement biaisée parce que je les adore, mais oui, on s'y sent très bien. Et moi, ce qui, à chaque fois, me souffle, c'est la qualité de ce qui est proposé. Je vois ça nulle part. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais donc il y a cette halle qui fait des centaines et des centaines de mètres carrés, qui est investie et habillée chaque année de façon différente, avec des expos qui sont toujours mieux les unes que les autres. Enfin, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais...
Non.
Mais non, mais c'est bluffant. Enfin, c'est vraiment bluffant.
Donc le lieu d'accueil est quand même important. Ce n'est pas que l'entourage, pas que l'ambiance, c'est aussi créer des conditions pour rencontrer le livre.
Oui et non. Enfin, dans le sens où moi, quand j'ai commencé au tout début, ce n'était pas dans cet espace-là et ça n'enlevait rien. C'était génial là aussi. Je pense que c'est surtout les gens qui sont à l'origine du projet qui font que... qu'il est aussi incroyable, en fait. Et le public qui vient, et tous les auteurs qui viennent. Mais quand même, il se dégage de ce festival quelque chose de très particulier, qui est de l'ordre du rendez-vous. Moi, je sais que j'y retourne, ça fait quoi ? Ça fait plus de 10 ans. Tranquille, ça fait longtemps. Mais en fait, on revoit les personnes. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine fidélité. Il y a beaucoup de tendresse, en fait, dans ce festival, aussi.
On va écouter un extrait musical de la programmation de Graphite. Je vous propose un extrait de Malka Family. Ils seront en concert la semaine prochaine au Zicodrome à Compiègne. Et d'ailleurs, on a des places à vous offrir. Pour ça, rien de plus simple. 06 95 065 026. Vous laissez un SMS avec vos coordonnées. Ou par les pages Facebook, Instagram. Un petit message privé. On écoute le titre. Ça va, ça va.
Est-ce que ça va, Julia?
Allez, Malka Family, donc je vous rappelle, ils seront la semaine prochaine aux Icodromes à Compiègne. On a des invitations à vous offrir. Et puis ce soir, soirée plutôt musique extrême avec du métal, Brain Machine, Giro. Ça sera ce soir à 17h30 aux Icodromes, organisé par Darkson Prod. Allez-y, hein, si vous soutenez la scène métal, puisque s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de concert, et que je sais que vous êtes nombreux à nous en demander, bah, allez faire un tour ce soir aux Icodromes. Et sinon, si vous aimez le punk rock, il y en a à Noyon ce soir. À la salle de Noyon, la salle habituelle de Noyon. Voilà. C'est dur, les émissions le week-end, c'est un peu plus compliqué. On revient pour parler de la BD Lina et le secret de la passerelle en compagnie de l'autrice Mathilde Domecq. On a également Pascal avec nous et Céline des médiathèques départementales de l'Oise. On revient un peu sur la médiathèque départementale de l'Oise. C'est quoi votre rôle dans l'organisation du coup de ces... Là, vous accompagnez les artistes, vous faites la communication autour.
Alors nous, on travaille sur le mois de la BD, on travaille en partenariat avec On a marché sur la bulle. Ça fait maintenant quelques années, hein, quand même.
Une bonne quinzaine.
Oui, une bonne quinzaine. Ça a eu plusieurs noms. Depuis quelques années, ça s'appelle le mois de la BD. Donc, on travaille vraiment en étroite collaboration avec On a marché sur la bulle pour faire des propositions de différentes programmations pour pouvoir un petit peu satisfaire le maximum d'habitants dans l'Oise, en fait. Voilà, nous, notre rôle, c'est de trouver le bon partenaire qui va nous aider à accompagner les bibliothèques pour pouvoir programmer des choses dans leur lieu. Puisque tout l'intérêt, c'est que les habitants aillent dans les bibliothèques, passent la porte et découvrent parfois qu'il y a une bibliothèque dans leur commune et qu'il y a plein de choses qui se passent.
Avec l'arrivée de Netflix, Amazon, Prime, tout ça, est-ce que les gens vont en bibliothèque encore emprunter des livres, lire des livres, emprunter des...
Les gens continuent à y aller. Les gens continuent à y aller. Puis les pratiques dans les bibliothèques ont changé aussi. C'est-à-dire que si une bibliothèque, il y a 20 ans, était plus vue comme un lieu où on entre pour emprunter des livres et pour y lire et faire silence. Là, maintenant, il y a quand même des choses qui se passent. Nous, voilà, on organise d'ailleurs en ce moment, jusqu'au 17 octobre, des concerts en bibliothèque, dans des petites bibliothèques rurales, de préférence. Donc, c'est aussi, nous, accompagner les bibliothécaires, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles bibliothécaires dans l'Oise. C'est les accompagner, leur apprendre, et puis leur permettre de faire des choses et d'animer leur bibliothèque pour que le plus de public vienne découvrir les collections physiques, mais aussi découvrir qu'il y a plein d'ateliers, il y a plein de choses chouettes qui s'y passent.
Oui, c'est plus marrant, c'est un lieu de rencontre, c'est ça ?
C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre, de partage, et puis c'est souvent aussi le seul lieu culturel aux alentours, dans la commune ou aux alentours. Donc, c'est un lieu vraiment où on peut se rencontrer et puis partager.
Mathilde, vous, le fait d'habiter à Berlin, ça joue sur votre... j'allais pas dire sur votre vie, parce que Berlin est quand même une ville particulière pour la fête, la culture, etc. Mais est-ce que ça influence votre travail ?
Alors, j'ai vécu à Berlin pendant 7 ans et ça fait 4 ans que je suis partie. Mais,
ouais. Est-ce que ça a influencé votre
forcément,
votre travail,
oui. Ouais. Ça a forcément nourri beaucoup de choses dans ma vie. Après... j'ai l'impression que je me nourris partout, c'est-à-dire que en fait que là je vis plutôt en ruralité, il y a de la nourriture partout, qu'elle soit culturelle ou dans la nature ou enfin bon.
Mais c'est le principe des grandes villes comme Paris, Berlin, Londres, Los Angeles, etc. C'est des endroits où en fait les gens se rencontrent, c'est une mixité notamment dans les propositions où on peut aller voir de la culture très facilement. Qu'est-ce que vous avez fait du coup quand vous étiez à Berlin?
Eh ben, j'ai vécu là-bas, donc j'ai fait de la bande dessinée au quotidien comme je fais depuis toujours. Et oui, effectivement, ce qui est un peu fou dans cette ville, c'est que où qu'on aille, quoi qu'on fasse, moi j'avais l'impression vraiment à chaque fois que je poussais la porte d'un endroit, que ce soit le bar du coin pour aller boire un verre où il y avait un bœuf, en fait les musiciens étaient exceptionnels. Je passe la porte d'une expo gratuite, l'expo est exceptionnelle. Enfin, je veux dire, tout est quand même, toutes les offres culturelles sont d'une qualité un peu dingue. Et ça, c'est génial, parce qu'il y en a beaucoup et que oui, la qualité est vraiment là. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent du monde entier dans ces villes que ce qu'on nous y propose, c'est toujours un petit peu la crème, quoi.
Alors là, vous êtes venu avec une sortie qui va sortir prochainement. C'est une BD, c'est un roman, c'est quoi? Parce que c'est bien épais, j'ai l'impression, d'ici.
Oui, c'est un hybride. Okay. C'est un livre... je voulais peut-être...
Je vais bien le regarder, oui.
C'est un livre particulier qui est en fait plutôt un recueil d'illustrations. Alors comme c'est toujours mon dessin, ça se rapproche quand même de la bande dessinée, mais il n'y a pas de cases. Et ce sont des dessins qui sont nés sur les réseaux sociaux et qui se lisent en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures possibles. Il y a la lecture comme ça, quand vous regardez le dessin qui est au trait. Et il y a la lecture avec une petite lampe qui est vendue avec le livre, qui permet en fait de voir les choses autrement.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, il y a une encre UV qui réagit que à cette lumière-là, qui fait apparaître des personnages qu'on ne voit pas au premier abord, après coup, avec la lampe.
C'est génial.
C'est pas très radiophonique.
Non, c'est pas très radiophonique, mais ça laisse les surprises. C'est le genre de bouquin qui coûte très cher à produire, j'imagine.
C'est surtout qu'il est excessivement complexe à produire. Et après,
pour remettre l'encre, c'est ça pour, ouais.
Oui, bah, c'est une encre qui existe. Bah, c'est celle qu'on met sur les billets de banque là, pour vérifier D'accord. que c'est bien les bons. Mais c'est surtout qu'en fait, on a eu plein de problèmes techniques à résoudre. Mais c'était assez fascinant parce que moi, j'ai fait ce livre avec une maison d'édition qui fonctionne différemment, qui s'appelle Exemplaire et qui fonctionne plus comme une coopérative d'auteurs et d'autrices. Donc, on est très impliqués dans nos projets. Et ben là, j'ai tout suivi, du choix du papier, au choix de la lampe, au choix de l'élastique qui tient la lampe. Et c'était ça qu'il me fallait pour ce livre, parce qu'il est, il est un petit peu à part. J'aurais pas aimé en fait pas être impliquée à ce point.
Le choix du papier, le choix du cartonnage, tout ça, c'est quelque chose que vous suivez que pour celui-ci, vous avez suivi pour les autres ?
Ben, disons que là, comme c'est moi qui finance le livre dans ce projet-là, c'est moi qui décide. Après, quand je travaille avec des éditeurs, évidemment, on peut discuter avec Pascal et les éditions de La Gouttière. J'ai pu beaucoup choisir, mais c'est vrai qu'en fonction du coût du livre et du prix de revient, ben, on peut pas tout faire. Mais
c'est combien du coup à vendre ce genre de livre avec cette encre ?
On a tiré au maximum de ce qu'on pouvait et il est à 27 euros.
27 euros, c'est... De toute façon, c'est le prix unique. Ah bah oui, en plus, il est indiqué sur...
Oui,
le...
oui, oui. On ne pouvait pas faire moins.
Très beau, très beau. Il sera disponible quand ?
Le 16 octobre. Il est déjà disponible sur le site des éditions Exemplaires, directement en ligne.
Vous avez déjà pensé, Pascal, à faire des BD un peu hybrides, comme ça, avec des petites surprises ? Moi, je n'avais jamais vu ce genre de BD.
Non, mais ce projet de Mathilde, il est incroyable, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été plus évoqué que ça, mais c'est que ces personnages qui apparaissent, il y a énormément d'affect autour. Cette question, c'est une question de l'apparition et de la disparition, et de la trace de ceux qui nous manquent, que ce soit un animal, un grand-parent, un enfant. Donc c'est un livre assez incroyable. Le fond et la forme, ça ne peut fonctionner que comme ça. Et c'était déjà très spectaculaire sur le web, parce que tout ça c'est lié aussi à des histoires qui lui ont été racontées. Il y a une dimension très participative, très universelle dans tout ça, qui est assez merveilleuse. Donc là, il y a vraiment une bonne raison pour que ce format soit très différent. Et quand il y a des bonnes raisons pour que le format soit très différent, on fait des choses très différentes. Alors on a un livre, nous, qui a presque 2 ans de retard, mais qui est une bande dessinée pour les tout-petits, muette, avec l'idée d'une division de chaque page en 3 sections, pour lesquelles il nous faut des cartes qui vont être remises en place. Il y a des fleurs, un personnage, un loup. Et donc, selon la façon dont on remet ces cartes, on crée des récits différents. Et l'objet, la fabrication de l'objet nous pose beaucoup de problèmes. On ne veut pas fabriquer ça très loin en Chine, et parce que ça serait presque la seule solution pour tous les livres un peu complexes. Et puis en même temps, on veut que ce livre soit accessible économiquement, et donc on s'est fait très mal à la tête aussi, et il va enfin sortir prochainement. Donc ce sera à la fois une bande dessinée expérimentale qui pourrait être utilisée par des universitaires, mais qui doit pouvoir être prise en main par un enfant qui démarre la bande dessinée. Donc le fond influe sur la forme.
Très tard, je parlais de la chaîne du livre, mais c'est vrai que l'impression, on arrive encore à trouver des imprimeurs abordables en France ? C'est quoi la réalité ?
C'est très complexe, ça fait partie de ce genre de choses où, vous savez, il faudrait inventer un nouveau pays qui s'équipe là maintenant, il serait le plus compétitif, et dans 25 ans, il faudrait inventer un nouveau pays qui soit compétitif, donc ça change tout le temps. Là, actuellement, nous, on arrive à continuer à travailler essentiellement avec la Belgique, juste de l'autre côté de la frontière, où il y a des imprimeurs qui nous permettent à la fois d'avoir le type de qualité qu'on souhaite, et puis un prix qui fasse en sorte que le livre soit acheté. Enfin, c'est vraiment terrible. Je préférerais faire travailler un imprimeur s'il existait. Il n'y a pas de ce type d'imprimeur, mais s'il existait là, évidemment, je voudrais travailler avec, mais je sais qu'économiquement, ce serait très compliqué.
Là, ce soir, on le rencontre à 17h. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir... C'est quoi le type de rencontre ? Vous allez faire une masterclass, des dédicaces, c'est quoi ? C'est quel type d'ailleurs ? C'est des très jeunes qui viennent ? C'est des ados ? C'est les parents ? C'est quoi votre public habituellement ?
Ben, on espère un maximum de diversité.
Mais qu'est-ce qui est-ce vient vous voir habituellement sur les rencontres comme ça ?
Bah, alors
les parents qui poussent aux enfants de les lire, c'est les enfants qui... Comment ça arrive dans leurs mains ?
Principalement, moi je fais de la bande dessinée jeunesse depuis toutes ces années, en dehors de quelques albums qui s'adressent plutôt à tout le monde. Et moi, mon public, c'est un public jeunesse. C'est le meilleur public du monde parce qu'il est intransigeant, il est complètement sincère. Enfin, moi, je les adore. Et très souvent, quand ils sont en âge de lire, ça m'est arrivé qu'il y ait des parents qui me disent « Bon, bah, j'ai pas eu le choix, il a vu le programme, il fallait vraiment qu'on vienne. » Ça m'est arrivé plein de fois et ça me fait hyper plaisir quand c'est ça qui se passe. Et après, je serais bien en peine de vous dire quel est mon public parce que Le temps passe, je fais de la bande dessinée jeunesse depuis déjà maintenant plusieurs années, donc des gens qui m'ont lu enfant sont maintenant des adultes. La dernière fois que j'ai fait Angoulême, j'ai pas un, pas deux, mais trois jeunes auteurices qui sont venus me voir en me disant qu'ils me lisaient enfant. Je sais pas si ça me fait plaisir, mais c'est un fait. Donc, il y a aussi des adultes maintenant, par la force des choses et parce qu'aussi je m'adresse aux adultes plus directement. Donc j'ai envie de dire... qui veut peut venir.
Les écoles maternelles et les enseignants, est-ce que c'est une porte d'entrée, je peux vous poser la question tous les trois, est-ce que c'est une porte d'entrée vers la BD pour les enfants? Parce que comme on leur lit des, ils leur lisent des BD à l'école, est-ce que du coup c'est comme ça qu'ils découvrent un peu? Non, vous pouvez, si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas
de réponse. Nous, on fait effectivement des ateliers à destination des scolaires, mais en général, ils ne les découvrent pas les BD avec les ateliers qu'on fait. Ils connaissent déjà. Et puis les bibliothèques ont en général un bon fond jeunesse. Et ce qui sort le plus en bibliothèque, c'est la bande dessinée jeunesse.
Le manga, ça vous fait peur parce qu'on sait que les jeunes consomment énormément de manga. Est-ce que c'est un risque pour la France? On sait que la France est le deuxième pays dans le monde où les mangas sont le plus vendus.
Bon, si on avait peur des mangas, il aurait fallu avoir peur de Harry Potter parce que ça a fait lire une génération de lecteurs. Donc aujourd'hui, les mangas, c'est une chance incroyable pour maintenir, perpétuer et faire lire. Il y a une qualité hallucinante de ce côté-là. Est-ce qu'on doit avoir peur de la diversité et de la richesse? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs postures par rapport au monde, effectivement. Une posture plus conservatrice qui consisterait à dire que c'était mieux avant quand il n'y avait que Spirou et Tintin. Ce n'est pas la mienne, je crois que ce n'est pas la nôtre.
Non. Absolument. Moi je trouve ça fabuleux, les mangas. Il y a une profusion en fait, de mangas, il y a des choses excellentes. Et puis très prosaïquement, quand on a 13 ans et qu'on a 10 euros, on peut s'acheter 250 pages de BD. Voilà.
On a eu des auteurs très progressifs, hein, par exemple Jacques Tardy, hein, qui lui conspuait le manga en disant « Ah, cette saloperie japonaise
voilà. !» On attend avec impatience qu'il en lise un en entier et qu'il nous dise ce qu'il en pense.
On lui enverra un petit texto alors dans ce cas-là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous dans nos studios. On rappelle l'événement ce soir pour le mois de la VD, co-organisé je crois par la médiathèque départementale de l'Oise. C'est au salle du chapitre aux bibliothèques de Compiègne en centre-ville. Et sinon, il y a également un événement avec Étienne Lecroart. Ça sera le samedi 18 octobre à 15h à Ménilhantel. C'est dans la médiathèque?
C'est dans la bibliothèque de Ménilhantel, comme ce soir à la bibliothèque Sainte-Corneille.
Est-ce que vous avez les dates des prochains concerts organisés par la médiathèque?
Alors ce soir, il y a un concert à Auneuil avec Adam et le Mutant, en partenariat avec l'ASCA. La semaine prochaine, il y aura un concert à Chantilly, le 10 octobre. Là, en partenariat avec la Grange à Musique, avec Sweet Marigold. Et le 17 octobre, Adam et le Mutant revient encore dans les bibliothèques à Guiscard.
Et vous êtes également en partenariat avec le Celebration Day Records?
Nous avons un partenariat avec Celebration Day Records, la Grange à Musique et l'ASCA sur cet événement, effectivement.
Avec qui on travaille régulièrement. C'est vrai que pour les amateurs et amatrices de BD, n'oubliez pas que nous, on organise notre bourse au disque, la 14e bourse au disque BD. Ce sera le dimanche 19 octobre. Les inscriptions sont en cours, donc si vous avez des mangas, parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de mangas, hein, souvent ça met la BD plutôt traditionnelle qui est vendue sur nos stands, donc n'hésitez surtout pas, on vous attend avec grande impatience. Merci à tous les trois d'être venus dans nos studios. Bonne journée à Compiègne et puis bonne rencontre pour ce soir.
Merci.